IDFM Radio, le média valdoisien.
Et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+ sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio. De l'engagement économique local au théâtre, en passant par la transition énergétique et la réalité virtuelle, aujourd'hui, vendredi 17 janvier 2025, retrouvons trois personnalités passionnées et engagées, issues de domaines variés, mais réunies par une ambition commune, innover, transformer et construire l'avenir. Une émission qui promet d'être riche en échanges et en découvertes. Parmi ces personnalités, maillon essentiel dans l'accomplissement des entreprises du territoire, notamment dans un contexte de transformation économique et environnementale, avec des représentants du MEDEF pour connaître ses priorités sur le territoire et ses collaborations et partenariats. Parmi ces personnes, Saïd Ferry. Bonjour Saïd, pardon.
Bonjour Jacqueline, merci de me recevoir dans cette belle émission.
Merci à vous d'être présent ce matin. Ravie de vous accueillir sur ce plateau. Alors Saïd, vous êtes vice-président MEDEF 95 en charge des transitions, membre associé de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France-Val-d'Oise, administrateur du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, Île-de-France. Autant dire qu'avec vous, nous sommes au cœur des enjeux de la transition énergétique dans le Val-d'Oise. Et nous verrons comment, en tant que vice-président du MEDEF 95, vous œuvrez à transformer ces défis en opportunités pour les entreprises. À vos côtés, Alain Jolland. Bonjour Alain.
Bonjour Jacqueline.
Fondateur de la société Altus Form et créateur de la solution réalité virtuelle Nixi, véritable innovateur qui utilisait la réalité virtuelle pour sensibiliser et former sur des sujets complexes. Vous nous expliquerez comment, avec votre société Altus Form, vous explorez un nouveau potentiel de la réalité virtuelle, loin des stéréotypes du jeu vidéo. Et mon troisième invité n'est autre que Charles Henquin. Bonjour Charles.
Bonjour Jacqueline.
Merci infiniment d'être à nos côtés ce matin.
Je vous en prie. Merci à vous de me recevoir.
Je vous en prie. Alors, producteur, réalisateur, fondateur et dirigeant de l'agence de communication audiovisuelle Belinda Media et de la société de production théâtrale Je me voyais déjà tout un programme, vous vous apprêtez à relever un défi inédit avec la pièce En attendant Albert, une comédie déjantée qui prendra vie sur les planches de la scène parisienne à partir du 6 février. Une aventure où l'art théâtral rencontre une production pleine de péripéties et de créativité et dont nous avons hâte d'en savoir plus. Encore bienvenue et merci à tous les trois pour votre présence en direct sur IDFM Radio dans l'économie en direct. Une émission que vous pourrez retrouver comme bon vous semble en podcast sur le portail de la radio idfm98.fr.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Alors Saïd Chéri, je m'adresse à vous en premier. La France vit aujourd'hui une situation singulière, un manque de visibilité sur l'environnement économique et social qui provoque un attentisme dont on se passerait bien. Heureusement, dans ce contexte, les entreprises apparaissent plus que jamais comme des îlots de stabilité et d'engagement. Les chefs d'entreprise continuent d'innover, investissent et prennent des risques. Vous-même, en tant que vice-président du MEDEF 95 en charge des transitions, le MEDEF, fort de ses 200 000 entreprises, continue de jouer son rôle d'influence et d'animateur auprès des institutions pour faire que les transitions liées à la décarbonation soient une opportunité. C'est bien ça ?
Effectivement, le MEDEF est un acteur local très fort, fédérateur, qui mutualise aussi les énergies et les initiatives des entreprises, des entrepreneurs, mais aussi les représentants institutionnels et les organisations de toutes couleurs qui soutiennent le développement économique dans le territoire. À ce jour, nous développons le thème de la transition énergétique parce que nous y croyons et parce que, au-delà de la contrainte réglementaire, c'est un atout et c'est une opportunité que doivent saisir les entreprises. Avant tout, je voudrais dresser le cadre de ce que c'est la transition énergétique, puisque c'est un terme assez général et il faudrait un peu délimiter le contexte. Donc c'est plutôt avant tout donc une transition des systèmes électriques vers les la transition énergétique, c'est plutôt un processus global de transformation des systèmes de production et de consommation pour aller vers des modèles plus durables, d'accord ?
Oui.
Elle vise essentiellement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi favoriser les énergies décarbonées. Et cette transition repose sur plusieurs axes. D'abord, le développement des énergies renouvelables, la décarbonation des systèmes électriques, des systèmes énergétiques, mais aussi, en quelque sorte, l'électrification des usages. On va aussi vers la sobriété énergétique dont tout le monde a entendu parler, mais aussi l'exploration de nouvelles sources d'énergie comme l'hydrogène vert ou la biomasse ou le biométhane. En France, la transition énergétique est encadrée par une loi, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Il y a bien sûr des enjeux importants dans cette transition, ils sont multiples. D'abord des enjeux économiques avec des investissements massifs en infrastructures et en innovation. Des enjeux écologiques bien sûr pour diminuer les émissions de carbone et l'empreinte environnementale des activités économiques. Et puis au final aussi, il y a aussi des enjeux sociaux car la transition énergétique implique une transformation du marché de l'emploi associée à une formation adéquate. Donc, dans ce contexte, il y a aussi la création de nouvelles opportunités dans le secteur des énergies renouvelables. Et cette transition engendre des défis techniques, des défis économiques et sociaux de grande envergure. Mais elle constitue, Jacqueline, comme je vous l'ai dit, également une opportunité unique de réinventer nos systèmes énergétiques.
Alors, merci Saïd pour toute cette précision. En effet, vous insistez sur cette opportunité de transformation et aussi de valeur ajoutée. Comment vous pouvez développer cette idée pour les entreprises ?
Oui, bien entendu. Nous nous inscrivons dans une démarche d'innovation et une approche consensuelle avec les entreprises du territoire pour pouvoir créer cette opportunité dans des sujets de la transition. Et il se trouve que dans le cadre du Green Deal européen, il y a une priorité qui est donnée, celle de travailler sur de nouveaux vecteurs énergétiques tels que l'hydrogène vert. Donc nous, depuis 2020, on a pris à bras le corps cette thématique. On a estimé que c'était une opportunité de s'engager pour développer le secteur économique. Et nous avons, dès cette année 2020, donc organisé un consortium d'entreprises de 7 pays pour répondre à un appel à manifestation d'intérêt pour créer un hub hydrogène aéroportuaire dans le périmètre de l'aéroport Charles de Gaulle. et bien entendu en partenariat avec la région Île-de-France, Schulz Paris Région, Airbus et le groupe Aéroport de Paris. C'était la première action que nous avions menée sur ce sujet et nous avons eu l'idée aussi de créer un maillage territorial et de favoriser l'émergence d'un écosystème local d'entrepreneurs, d'entreprises, de centres de recherche et d'innovation pour créer une force et que ça apporte une attractivité aussi au Val-d'Oise sur ce sujet-là. Et par la suite, nous avons eu l'idée de créer une convention d'affaires qui s'est appelée les High Sky, que nous avons organisé au musée de l'air et de l'espace au Bourget, avec 700 rendez-vous d'affaires durant cette convention. Et ça a permis de mettre en avant le leadership du Val-d'Oise dans le sujet de l'hydrogène aéroportuaire, spatial et aéronautique, tout en sachant que l'Île-de-France est la première région aéronautique d'Europe.
Donc vous êtes en train de nous dire que ce Green Deal européen, c'est un véritable levier pour favoriser, enfin pour accélérer la transition énergétique à l'échelle locale.
Exactement, et ça amène à des transformations, et ça amène aussi à des prises de conscience des acteurs économiques, et nombreux nous ont sollicités pour avancer sur ce sujet. D'ailleurs, on a commencé à travailler aussi avec l'université de Cergy, qui est devenu pôle universitaire d'innovation. Oui, donc il n'y en a que 20 en France, et on a proposé de lancer une chaire industrielle hydrogène pour transformer toutes ces innovations et cette recherche académique et l'emmener vers la sphère de l'entreprise et pouvoir ensuite déployer des brevets et industrialiser les process.
Ah oui, un beau partenariat hein, pour CY et le PUI dont nous parlons régulièrement chez IDFM Radio. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le MEDEF accompagne régulièrement les entreprises hein, face aux enjeux de compétitivité et de transition. Les rendez-vous que vous avez multipliés là, lors de cette de ce maillage territorial, toutes ces entreprises sont devenues adhérentes du MEDEF.
Certaines
l'étaient déjà.
Non, certaines étaient déjà adhérentes et d'autres nous ont rejoints parce que le fait de travailler en groupement et d'avoir des synergies les a poussés bien entendu à adhérer et à pouvoir créer des projets ensemble.
Et ce groupement d'employeurs hein, de la transition énergétique et écologique dans le Val-d'Oise, aujourd'hui, il se nourrit de lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il continue à progresser ?
Alors, le projet de groupement d'employeurs pour la transition énergétique et écologique, c'est un projet que nous lançons le premier semestre.
D'accord.
C'est un projet innovant, c'est un projet qui a été aussi porté par le MEDEF Val-d'Oise, mais initié dans l'idée par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités.
Ah oui, la DETS, hein, oui, dont vous m'avez parlé, oui.
Oui, porté par son chef de projet innovation sociale, Monsieur Hakim Kamouche. Et donc, nous travaillons de manière très très dense et rapprochée avec la DETS pour pouvoir apporter des solutions et de nouvelles initiatives pour l'emploi et le développement économique. Donc, ce groupement, il a vocation de mettre à disposition de ses membres des services ou des services d'un ou plusieurs salariés qui ne peuvent pas à eux seuls supporter la charge d'un emploi permanent, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers ou la visibilité pour recruter un CDI à temps complet, ou soit parce qu'ils n'ont pas la charge de travail suffisante pour occuper un salarié à temps plein. Donc c'est aussi répondre, dans un cadre juridique sécurisé, à des besoins de compétences en les mutualisant. C'est l'esprit de ce groupement.
D'accord, très bien. Et vous avez des rendez-vous qui sont pris, dont on pourra parler dans les jours qui viennent.
Nous avons déjà engagé des contacts et des rendez-vous avec des acteurs dans le domaine énergétique et qui sont des acteurs d'envergure nationale, qui sont séduits par cette idée de groupement. Nous avons aussi des TPE, des PME, qui veulent rejoindre l'aventure. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter à chacun sa place dans ce groupement et aussi une animation en réseau pour que ça devienne aussi un centre de ressources et de contact.
Oui, que ça soit un nouveau réseau bien actif, comme on les connaît dans le Val d'Oise. Merci Saïd Ferry pour toutes ces précisions. Je propose qu'on marque une courte pause et puis on revient avec vous pour connaître, pour savoir quels sont vos besoins dans ce domaine. À tout de suite.
Avec plaisir.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Ce matin, le MEDEF du Val d'Oise est à l'honneur avec à mes côtés Saïd Ferry, vice-président de cette institution, et avec lequel nous développons le processus de la transition énergétique dans le Val d'Oise. Saïd, professionnellement, quels seraient vos besoins dans ce domaine de la transition énergétique?
Écoutez, nous sommes à la recherche de partenaires institutionnels, d'acteurs sur le sujet de la transition qui ont une reconnaissance locale ancienne. Et nous voulons donc que chacun s'inscrive dans cette démarche de construction de ce groupement d'employeurs. Ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des sociétés de conseil, ça peut être des sociétés industrielles qui fournissent des biens et des services dans le domaine des énergies renouvelables. Ça peut être aussi des grands acteurs, des grands énergéticiens de rang nationaux. En fait, nous essayons de constituer au fil de l'eau et de manière cohérente un certain nombre d'acteurs économiques qui vont accepter de jouer le jeu avec nous dans ce groupement d'employeurs. Donc je tends la perche et j'espère que nous aurons un retour de ces personnes et de ces entreprises qui accepteraient de jouer le jeu de ce groupement.
Mais écoutez, je vous le souhaite. J'espère que nos auditrices et auditeurs auront bien reçu le message. Pour vous contacter, que faut-il faire?
Il faut aller sur le site du MEDEF Val d'Oise, tout simplement.
Tout simplement, et tous les détails sont affichés.
Exactement.
Très bien. Je vais m'adresser à Alain Jolan et puis Charles Hennequin. Ces problèmes de transition énergétique, forcément, vous touchent, Alain?
Oui, tout particulièrement, évidemment. La situation est claire, malgré ce que certains en disent, mais le mur est devant nous. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à accélérer ou est-ce qu'on change notre mode de consommation? Est-ce qu'on prend en compte la situation? Et ce qui, en fait, de toute façon, on va être obligé de s'en occuper.
D'en passer par là.
La question, c'est est-ce qu'on le fait maintenant avec le temps ou avec un peu de temps? Ou est-ce qu'on attend d'être face au mur pour se rendre compte qu'il n'y a plus le choix?
Même si, alors peut-être que je dis une bêtise, mais même si il me semble que la France n'est pas si mal notée au niveau des émissions de gaz à effet de serre.
Alors souvent, même sur les communications du gouvernement, malheureusement, il y a non pas des erreurs, mais des incompréhensions.
Oui.
On oublie très souvent de prendre en compte tout ce que l'on fait émettre par d'autres pays pour la production des biens et des services de consommation que l'on achète et que l'on rapatrie en France. Voilà.
Donc, globalement, c'est un.
Voilà. Ouais, donc, quand on compare, effectivement, il y en a certains qui le font, de comparer les émissions de gaz à effet de serre d'un Français ou d'un Chinois. Ils ont regardé, les Français émettent beaucoup moins, mais sauf que en fait, les Chinois, entre autres, hein, parce que c'est quand même un grand producteur, émettent beaucoup de choses pour notre bien.
Oui,
donc, si on achète ces biens-là, après, faut pas être étonné des conséquences.
Oui, on en parlait.
Donc, il faut les assumer.
On en parlait hors antenne avant de commencer l'émission. Merci Alain Jolan. Charles, pour avoir reçu une personne qui est dans le cinéma, j'ai compris que l'art s'intéressait aussi beaucoup à en tout cas les moyens de production qui diffusent l'art s'intéressent aussi à la transition énergétique.
Oui, tout à fait. Aller au théâtre, c'est si on y va en vélo et en métro, c'est on va dire que c'est écolo.
Oui.
C'est local. Donc c'est sûr qu'on essaye d'œuvrer à nos petits niveaux, même dans la vie de tous les jours, on essaye d'œuvrer à nos petits niveaux. Après, on n'a pas forcément l'impression que les choses changent très vite.
Façon, et
c'est souvent un peu anxiogène. Voilà.
Ouais. Mais je crois aussi au niveau de la conformité des salles, je crois qu'il y a des efforts qui sont faits à ce niveau-là.
Alors là, vous me posez une colle, mais certainement. En tout cas, non. C'est sûr que de toute façon, ça touche tous les domaines du travail, de la vie.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant de ces problèmes. Hein,
exactement.
De
et d'ailleurs, dans la pièce que je vous présenterai tout à l'heure, on parle aussi un peu de ce monde qui change, du conflit des générations, de comment. D'ailleurs, j'ai un personnage qui est le plus jeune personnage de la pièce, qui lui bouscule un peu les choses et essaye d'apporter son grain de sel et d'offrir une autre vision du monde.
Ouais, voilà. Très bien. Bon, ben, on a hâte, comme je l'ai dit, d'en savoir plus. Saïd Ferry, les besoins de la profession, ce sont ces partenariats, c'est peut-être aussi de la formation, de la qualification, du soutien de l'État sur le marché.
Tout à fait. On est sur un secteur qui se développe. On est dans une transformation économique, une transformation du modèle économique. Et nécessairement, quand on est dans un secteur émergent, il y a des besoins en formation. Donc oui, par exemple sur l'hydrogène, on a identifié qu'il y avait 81 métiers à bousculer pour entrer dans ce secteur. Donc il y a un enjeu de formation très fort. Il y a un enjeu aussi de qualification, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une formation qui est diplômante ou certifiante, il faut qu'elle soit reconnue. Il faut qu'elle soit reconnue au niveau sectoriel. Il faut qu'elle soit reconnue au niveau du ministère du Travail pour impulser une dynamique et sécuriser les parcours d'emploi au-delà de ce que nous on peut imaginer comme possibilité sur le secteur. Donc là, on travaille aussi avec l'enquête annuelle sur les ingénieurs pour identifier quels sont les besoins. Sur le secteur de l'hydrogène, on a estimé qu'on aurait besoin à peu près de 15 000 ingénieurs pour travailler sur le sujet.
Donc oui, ça rejoint un petit peu ce que vous nous disiez sur la recherche d'emploi aussi. C'est une ouverture pour de futurs emplois.
Oui, mais ça va être crescendo et pour l'instant le profil, les besoins de qualification sont plutôt sur un niveau Bac+2, voire Master 1. Technicien, mais aussi chef de projet. Et puis, doucement, on va glisser sur des besoins plus importants au niveau d'ingénieur.
Très bien. Alors, je voudrais en profiter, vous me tendez un peu une perche pour dire que le MEDEF garde aussi son rôle de passerelle entre le monde économique et celui de l'éducation, puisque c'est en rapprochant ces deux sphères que se construiront les formations nécessaires au développement des entreprises.
Tout à fait. On a un travail très dense avec l'Académie du Val-d'Oise. Nous organisons souvent des rencontres entre un public jeune en formation et le monde de l'entreprise, des entreprises qui viennent expliquer qu'est-ce qu'une entreprise, comment on peut s'inscrire dans l'emploi et quelles sont les perspectives dans l'entreprise par rapport aux différents métiers. On organise aussi la semaine école-entreprise.
Oui.
Et qui remporte un très grand succès.
Absolument, pour laquelle nous avons reçu d'ailleurs un collège d'Argenteuil l'année dernière, qui a bien apprécié.
Tout à fait.
Et des élèves en tout cas.
Et nous avons effectivement un nombre très important de collégiens qui sont sensibilisés au monde de l'entreprise. Et on organise aussi en partenariat avec le département et la DETS, ce qu'on appelle la semaine du patrimoine économique. Donc on ouvre à tout public les entreprises pour aller découvrir ce que c'est qu'une entreprise, mais surtout l'activité des entreprises qui accueillent ce public.
Bien sûr.
Et c'est l'opération Ouvre-moi ta boîte. Et ça a lieu la dernière semaine de juin. Donc on est très très actif sur ce sujet des passerelles et des interfaces avec le grand public et le public tout court. Et il est essentiel que nous soyons en contact avec ce public, mais aussi avec tout type de personnes qui souhaitent travailler et vivre avec les entreprises.
C'est ça, avec tous ces jeunes qui feront le monde de demain.
On a ce rôle important, on a cette responsabilité aussi de transmettre à cette nouvelle génération l'envie de travailler en entreprise, l'envie de créer son entreprise.
De créer, oui, absolument.
Parce qu'il ne faut pas brider la créativité et le sens de l'éveil que chacun porte, et donner la possibilité à cette jeunesse de s'émanciper et de pouvoir s'épanouir dans un métier et un travail pour l'avenir.
Merci beaucoup Saïd Ferry. Rappelez-nous alors le lancement de ce premier groupement d'employeurs de la transition énergétique et écologique dans le Val d'Oise en partenariat avec l'ADETS. Quand aura-t-il lieu?
Eh bien, écoutez, les premiers jalons, c'est premier trimestre.
D'accord.
Donc d'ici fin mars. On va co-construire le projet et on va flécher les priorités sur de manière chronologique sur l'année, et ensuite on va embarquer au fil de l'eau les acteurs économiques, institutionnels, entreprises, entrepreneurs, auto-entrepreneurs, pour venir dans ce groupement d'employeurs, rejoindre ce groupement d'employeurs. Bon, qui est le premier, qui sera le premier de ce genre en Île-de-France.
D'accord. Bah, écoutez, j'espère que on aura l'occasion forcément d'en rappeler, de rappeler ce mouvement, puisque nous allons avoir des émissions régulières avec le MEDEF et j'espère que vous nous donnerez toutes ces dates.
Avec grand plaisir.
Merci infiniment Saïd Ferry, vice-président du MEDEF en charge des transitions, membre associé de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France Val d'Oise, administrateur du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France Île-de-France. Merci pour votre engagement visionnaire et pour ces initiatives qui montrent que la transition énergétique est bien plus qu'une contrainte, c'est une véritable chance de modernisation.
En tout cas, je vous remercie Jacqueline de m'avoir invité, c'était un plaisir d'échanger avec les auditeurs.
Mais écoutez, merci, mais ce n'est pas terminé. J'espère que vous nous ferez le plaisir d'intervenir dans les interviews d'Alain et de Charles.
Évidemment.
Merci infiniment. Il est temps de marquer une pause et on se retrouve tout de suite après.
Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort, si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord, tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus, et moi je rêve de gestes défendus, c'est comme ça. un peu spéciale, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous écoutez bien l'économie en direct sur IDFM Radio avec à mes côtés ce matin Saïd Ferry, vice-président MEDEF 95 en charge des transitions, membre associé de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France Val d'Oise, administrateur du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France Île-de-France. Alain Jolland, Alain Jolland, fondateur de la société Altusform et créateur de la solution en réalité virtuelle Nixi, et Charles Henquin, producteur réalisateur, fondateur et dirigeant de l'agence de communication audiovisuelle Belinda Media et de la société de production théâtrale Je me voyais déjà. Alors Alain, je me tourne vers vous. Alain, je crois que vous avez plusieurs vies. Je vous laisse vous présenter.
J'ai eu une autre vie avant le monde de l'entreprise, puisque j'étais dans l'armée de l'air. Je suis rentré en 92 dans l'armée de l'air pour devenir pilote de transport. J'ai fait 27 ans dans cette magnifique structure, vécu à différents endroits, vécu au Niger en particulier, qui m'a beaucoup marqué. Mais j'ai eu cette envie de basculer dans le monde de l'entreprise pour vivre une autre vie, pour me confronter à certaines réalités que je ne connaissais pas en tant que militaire, même si certaines réalités de militaires sont pas mal. J'avais envie de découvrir une autre vie, et puis donc de me lancer, et puis ça a été vraiment le sujet de la formation. C'était vraiment ça, en particulier ces deux années au Niger où je suis allé visiter des écoles, m'ont marqué et m'ont bien montré quel était l'impact de l'éducation, de la formation.
Oui, oui, oui.
C'est vraiment fondamental.
Oui, ça,
on
ça,
se rend pas
ça.
Compte que, par exemple, pour être coiffeur, pour passer la tondeuse, des choses aussi basiques, on a besoin de mathématiques,
oui.
On a besoin de géométrie, savoir ce que c'est qu'une ligne droite. Voilà, ça paraît bête, mais au Niger, ils savent pas ce que c'est qu'une ligne droite, ils savent pas tondre. Alors,
d'accord.
Vous allez me dire, il y a peu de personnes qui tondent, mais il y en a quand même quelques-uns.
Et donc, vous êtes intervenu en tant qu'éducateur
Alors, j'étais instructeur pilote dans l'armée nigérienne pendant 2 ans. L'idée, c'était de sélectionner, de former les jeunes pilotes nigériens pour intégrer l'armée de l'air nigérienne. Voilà.
Donc beaucoup de travail, alors j'imagine, si vous dites qu'il faut déjà leur apprendre la ligne droite.
Oui. Alors bien sûr, ceux qui arrivaient à ce niveau-là avaient bien sûr des connaissances, mais quand même, quand on parle d'aérodynamique ou de décrochage ou ce genre de choses à des jeunes qui n'ont pas forcément une formation scientifique très importante, il y a des moments, il faut. Parfois, on donne des exemples comme t'imagines, t'es sur l'autoroute, tu ouvres la fenêtre et tu sors la main. On oublie. C'est pas un bon exemple, il n'y a pas d'autoroute. Bon, il y a des voies rapides quand même, mais pas beaucoup.
Oui, c'est plutôt des routes.
Donc c'est ce genre de choses où il faut s'adapter, bien sûr, dans son discours. Et donc la formation, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Après, il y avait le deuxième point, c'est la réalité virtuelle. Dans la formation de à peu près tous les pilotes, depuis de nombreuses années, on utilise les simulateurs qui sont des outils de réalité virtuelle, tout simplement. effectivement. Donc moi j'ai commencé en 1996 à utiliser ces outils pour ma propre formation dans un premier temps, puis ensuite pour la formation des autres. Et donc je savais à quel point la réalité virtuelle est immersive et vous fait croire, mais sans l'ombre d'un doute, que vous êtes dans une situation donnée. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire que quand vous allez entraîner les personnes, quel que soit le sujet, vous n'allez pas travailler sur de la théorie, mais sur de la pratique.
Oui.
Et ça, il n'y a pas mieux pour former
bien
des
sûr.
Personnes.
Oui, voilà. Puisque vous, en tant que pilote, je crois que ce sont des heures et des heures pour arriver à des automatismes complètement, essentiels. Bah
c'est pouvoir, par exemple, quand on est dans une phase de décollage où chaque demi-seconde compte, quoi qu'on dise, un être humain ne réagit pas en un millième de seconde, c'est pas vrai. Donc il y a des délais, mais il faut quand même s'entraîner au maximum pour réduire au maximum ces délais, pour que quand on arrive à la vitesse élue, ce qu'on appelle la V1, si on a eu une panne dans la demi-seconde d'avant, on peut encore s'arrêter, et juste après, on s'arrête plus. Même avec une panne, on va continuer, on va décoller avec un avion en panne, c'est comme ça. Mais donc, il faut s'entraîner à ce genre de choses, et en le répétant, en fait, on s'en sort plutôt pas mal.
Oui, voilà. Oui. Et donc, cette idée de simulateur vous a, a trotté dans votre tête jusqu'à...
Oui,
jusqu'à vouloir créer votre entreprise.
Il y a cette idée-là, et puis aussi, je suis intimement convaincu que le jeu est important.
Oui.
Alors c'est vrai que le côté ludique est très important. On parle de temps en temps du travail avec son étymologie, qui est ce principe de la douleur. On enfante dans la, vous enfantez, mesdames, dans la douleur, et donc il y a le travail. Donc le travail, c'est quelque chose finalement d'assez péjoratif, surtout dans le monde latin, et c'est vraiment malheureux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'impuissance apprise. C'est en l'espace de 100 secondes, donc ça ne fait même pas 2 minutes, on est capable de mener des personnes à une incapacité, donc des étudiants, à une incapacité de réaliser des tâches qu'un enfant de 9 ans arriverait à faire.
D'accord.
Voilà.
Juste deux petits exercices
qu'on amène à l'échec volontairement. Et le troisième, eh bien, en fait, là, pour le coup, c'est facile, mais les personnes ont appris à ne pas réussir et donc ils n'y arrivent plus. Donc, on voit à quel point très, très rapidement on peut amener des personnes à ne pas savoir faire. Et donc, on imagine bien que sur toute une formation qui va durer des semaines, des mois, des années, c'est probablement arrivé. Et c'est pour ça qu'il y a un peu ce cercle vicieux, par exemple dans des matières comme les mathématiques, où on peut avoir des jeunes qui ont appris tout simplement « je vais avoir une mauvaise note ». Donc en fait, spontanément, le cerveau n'y arrivera pas.
D'accord. Voilà.
Et ça a été prouvé, ça a été démontré par de nombreuses études, sans l'ombre d'un doute. N'hésitez pas à chercher ce sujet sur Internet. Je propose un lien sur le site altusform.fr pour accéder directement à une de ces vidéos, mais il y en a plusieurs, il y en a pas qu'une. C'est sidérant, c'est
oui,
vraiment sidérant.
C'est incroyable ce que vous dites. Et tout ça vous a amené à vouloir combattre un petit peu ce genre d'impuissance.
C'est vraiment cette idée donc d'utiliser la réalité virtuelle parce que c'est un outil puissant, parce qu'il amène à la pratique, et puis également donc évidemment le côté formation pour amener ma pierre à l'édifice. Alors la solution qu'on a développée qui s'appelle Nixi, c'est une abréviation, c'est Nixi, N-I-X-I. En fait, ça vient de Newport 11. C'est une abréviation 11, donc 10 et 1, XI. Et donc, c'est comme ça qu'est venu le nom. Le Newport 11, c'est un avion qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est le maréchal Pétain, à l'époque général, qui a demandé à un commandant donc de ce que allait devenir l'armée de l'air, d'intervenir avec ces Newport 11 pour pouvoir sauver la situation face aux Allemands sur la bataille de Verdun. Voilà. D'accord. Donc il a dit ouvrez-moi les yeux, je ne vois plus rien. Et je trouvais que pour la réalité virtuelle et pour de la formation, ouvrez-moi les yeux, c'était pas mal. Voilà.
Oui, complètement. Alors donc il faut passer de la réalité à la, enfin de, du rêve à la réalité, pardon. Comment ça s'est produit?
Alors, très honnêtement, la défense, et je crois que c'est reconnu, accompagne beaucoup ceux qui souhaitent se reconvertir. Et puis à côté de ça, le MEDEF m'a franchement bien accueilli, en la personne de Michel Jonquer en particulier, qui a été mon parrain et qui a œuvré pendant quelques années à mes côtés pour me donner quelques conseils, me mettre en relation avec différentes personnes. C'est comme ça que j'ai rencontré Saïd. Donc ça a été vraiment un accompagnement sans faille pour me présenter, etc., et rencontrer des personnes, parce que là pour le coup je suis pas parti avec un carnet d'adresses, je suis parti de zéro. Donc là franchement c'est vrai que ça a été le point difficile, et heureusement que le MEDEF était à mes côtés.
Très bien. Peut-être un mot, Saïd, sur cet accompagnement que le MEDEF fait avec les futurs entrepreneurs.
Et effectivement, nous avons un partenariat fort avec le ministère de la Défense pour accompagner, mentorer les militaires qui sont en reconversion, quel que soit leur rang, quelle que soit leur responsabilité passée dans l'institution militaire. Et nous les accompagnons sur comment faire un business plan, comment communiquer, comment travailler en réseau, et leur fournir aussi un certain nombre de contacts qualifiés pour leur permettre d'accéder à des marchés nouveaux. Et dans ce cadre-là, oui, moi j'ai à plusieurs reprises présenté et recommandé Alain auprès d'entreprises, mais je l'ai aussi fait intervenir dernièrement, c'était à l'IUT de Neuville pour présenter son activité dans le domaine du bâtiment. Et là aujourd'hui j'ai pensé qu'il était très important de lui donner aussi la parole pour présenter son activité, et dont je suis ravi que ça soit dans ce sujet de la réalité virtuelle, qui est un sujet d'actualité aussi.
Vous avez très bien fait, on est ravis d'accueillir Alain. Alain, je propose qu'on fasse une courte pause et puis on reprend cette interview juste après.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Alors Alain Jolland, donc fondateur de la société Altus Form, vous proposez votre réalité virtuelle Nixi, propose des solutions immersives dont vous dites qu'il est crucial aujourd'hui d'intégrer cette réalité virtuelle dans les stratégies de formation et de sensibilisation.
Oui, c'est vrai que la réalité virtuelle, quand on a commencé à en entendre parler, bon, ça existe depuis plus de 40 ans, mais concrètement, elle est vraiment arrivée face au public, on va dire plus vers 2014. Mais au départ, c'était beaucoup de démonstrations, en particulier sur le principe des montagnes russes. Donc les gens mettaient un casque et puis vivaient quelques instants de montagnes russes. Ça met le corps en difficulté, puisque les yeux disent qu'on bouge dans tous les sens et le corps dit tu bouges absolument pas. Donc beaucoup de gens se sont retrouvés malades avec ce genre d'expérience. C'est 80%. Hein. 80% des gens étaient malades.
Ouais, c'est-à-dire une envie de vomir.
Voilà. On a collé une étiquette sur la VR, c'est ça fait vomir, ça rend malade. Donc avec une étiquette pareille, c'était quand même mal commencé. J'ai même vu sur des salons professionnels, recherche d'emploi et compagnie, ce genre d'activité montagne russe. C'est pas une utopie ou des histoires que je raconte comme ça. C'est vraiment très très concret. Et j'ai vu donc les gens qui repartaient pas bien en zigzagant, voire en sortant en courant, parce que vraiment ça n'allait plus du tout. Donc ça c'est vrai, ça a vraiment été un point qui était très très dommageable pour cet outil. C'est vrai que pour l'instant c'est quand même beaucoup un outil qui est utilisé pour le jeu. Je vais pas le critiquer, le jeu. Puisque je dis que c'est bon pour la formation, donc déjà première chose. Et puis deuxième chose, aussi ça a permis, par le fait que ça amène à des ventes, à améliorer ses casques et à proposer toujours des casques de meilleure qualité pour des prix qui n'augmentent pas. Donc ça c'est quand même un atout, parce que du coup ça permet de proposer des solutions qui sont efficaces. Mais les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui ne se rendent pas compte de quel impact ça peut avoir sur les actions, alors que ça a été vraiment démontré que la réalité virtuelle apporte des éléments très très positifs sur la formation, en particulier appuie un point, c'est que quand on forme quelqu'un et qu'on lui apprend quelque chose uniquement par le texte, si on le teste 15 jours, un mois plus tard, il aura peut-être déjà oublié une grande partie. Alors ça, on voit que, grosso modo, on a retenu 7% des informations à 15 jours.
D'accord.
Voilà, donc on voit à quelle vitesse on perd. Oui. Ça, c'est des éléments qu'on sait depuis 1895. Hein. C'est un petit peu ancien.
Sauf si on prend la peine de répéter tous les jours.
Exactement, voilà. La répétition qui va faire qu'on va mémoriser. Mmh. Avec une répétition qui peut être de plus en plus espacée. Voilà. Le deuxième point aussi, c'est la mise en pratique. Ils se sont rendus compte dans certaines entreprises que même 3 mois plus tard, ils retestaient les gens savaient encore, ils avaient bien retenu, bien appris les choses, mais ils ne les mettaient pas en pratique.
Ah oui. Oui.
C'est pas parce qu'on sait qu'on utilise. Mmh, mmh, mmh. Et c'est justement parce qu'on répète le geste que c'est plus efficace. Et c'est pour ça que les métiers, en particulier de l'artisanat, sont si efficaces et qu'il y a des gens qui arrivent à faire des choses absolument extraordinaires avec leurs mains parce qu'ils répètent et ils répètent et ils répètent encore leur geste.
À l'infini, oui.
Voilà.
Mmh.
Alors que des métiers plus intellectuels, si je puis dire, ça va être plus difficile de répéter justement ce genre de démarche. Mmh. Voilà. Mais donc, il est important de répéter, mais de mettre très concrètement en pratique ce que l'on veut faire. Hein, je pense que les acteurs y répètent un petit peu.
Bien sûr. Ouais, ouais. Alors donc, vous avez évoqué cette mauvaise image de la virtualité, de la réalité virtuelle par la VR, maintenant, comme on l'appelle, par le passé. Aujourd'hui, vous travaillez pour démontrer son utilité dans des domaines sérieux, comme les éco-gestes ou l'autisme. Alors, expliquez-nous.
Oui, tout à fait. On a développé en particulier donc deux sujets bien spécifiques. Les éco-gestes du salarié, donc c'est une formation qui est proposée sur une journée et qui permet en fait de mieux comprendre ce que sont les éco-gestes, pourquoi ils sont là, à quoi ils servent, comprendre tout ce qui est empreinte carbone, empreinte eau, etc. Il y a besoin de comprendre, c'est des sujets complexes. Et pour ça, entre autres, on utilise la réalité virtuelle parce que du coup, on va mettre... Alors, c'est pas toute la journée, la réalité virtuelle. Hein, c'est une vingtaine, trentaine de minutes où les gens vont être mis dans une situation très concrète. Ils sont chez eux, il va falloir qu'ils s'habillent, qu'ils prennent les transports en commun ou leur voiture pour se rendre au travail. Est-ce qu'ils prennent l'ascenseur ou pas? Ils démarrent l'ordinateur, ils ont un écran, deux écrans. Ils impriment pas, ils regardent leur mail, etc., etc. Voilà.
Et donc, ça, tout au long de la journée... Ça, c'est une logique un petit peu informatique aussi.
L'idée, c'est de les confronter à des situations à chaque fois vraiment banales. Mm-hmm. Mais à chaque fois derrière dire ah ben là si vous avez fait ça voilà l'impact, voilà les conséquences. Mm-hmm. Vous utilisez tel type d'écran ou tel type d'écran, ben sachez qu'il y en a un qui consomme beaucoup moins d'électricité, sauf que pour le produire il aura fallu consommer tellement de métaux rares que le résultat c'est qu'il faudrait que vous gardiez votre télé pendant 50 ans pour que vous arriviez juste à un équilibre, et comme on ne garde jamais 50 ans, ben en fait voilà, vous avez effectivement un appareil qui consomme peu en électricité mais qui est extrêmement impactant, et c'est plein de choses comme ça où on n'en est absolument pas conscient et qu'on fait malheureusement des mauvais choix régulièrement. Donc l'idée c'est bien ça, c'est d'utiliser la réalité virtuelle entre autres pour mettre en situation les personnes.
Et est-ce que dans cette optique vous êtes en relation avec le projet de Saïd Fihri?
Mais tout à fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait, voilà. Il m'avait invité pour aller à l'IUT Neuville.
C'est ça, très bien. Oui, bah écoutez, bravo pour ce beau partenariat, puisque finalement Alain Jolland est un petit peu en train de vous rendre ce que vous lui avez apporté dans sa mise en route de d'Altisform.
Eh bien écoutez, nous au MEDEF, on est ravis d'avoir des entrepreneurs de qualité comme Alain, puisque c'est quelqu'un de très positif, très engagé et qui va tenir son cap, et je pense que la réussite est déjà là. Et on essaye autant force que peut de lui donner de la visibilité, d'essayer de l'accompagner pour structurer son développement. Mmh. Et bien entendu, ça ne sera pas la dernière fois où on va le mettre en avant pour pouvoir développer ses services dans ce sujet de réalité virtuelle.
Oui, j'ai bien compris. Charles Henquin, la réalité virtuelle, c'est un sujet pour vous ?
C'est un sujet passionnant. Moi, je suis très admiratif de votre parcours, Alain. c'est toutes ces vies que vous avez eues, c'est très inspirant. Vous me faites un peu penser
ça
d'ailleurs.
Ça peut peut-être faire l'objet d'une pièce de théâtre.
Ah bah voilà. Vous me faites un peu penser à l'auteur de ma pièce, figurez-vous, qui est un ancien grand reporter, donc qui a fait énormément de zones de conflit dans les années 90, qui du jour au lendemain est devenu producteur de télé. Voilà, qui a fait des prime time sur les plus grosses chaînes de télévision, qui a aussi écrit plein de bouquins et qui là maintenant écrit une pièce de théâtre. Donc voilà, c'est ce genre de personne inspirante que j'admire vraiment profondément.
Bon, vous êtes en train de réaliser ce que j'adore dans chacune de mes émissions, c'est-à-dire il y a une symbiose qui se crée et j'adore. Voilà, merci à vous. Alors. Alain, vous avez des besoins dans votre profession, quels sont-ils ?
Oui, c'est toujours pareil. En fait, on continue à rechercher des partenaires justement sur des projets sur lesquels on va pouvoir avancer. Par exemple les sujets de la biodiversité. On reste encore un peu proche de tous ces sujets environnementaux. Donc là, on a des projets avec Orléans en particulier sur pas mal de choses d'accompagnement de projets. Ça peut être soit pour présenter les choses, pour communiquer sur ce qui est fait, ça peut être aussi pour faire un suivi, parce qu'avec la réalité virtuelle, on va pouvoir en fait créer des parcours où on va suivre au fur et à mesure les travaux qui vont être menés. Donc quand il y a une modification de grands espaces, on parle en dizaines d'hectares, eh bien on va pouvoir venir à plusieurs occasions et prendre des photos de la situation, et ce qui fait qu'ensuite on se retrouve avec un parcours virtuel où on va pouvoir et se déplacer physiquement, géographiquement dans les lieux, mais on va aussi pouvoir se déplacer dans le temps, puisqu'on va pouvoir remonter dans le temps pour voir comment les différentes étapes se sont passées. Voilà. Et donc retrouver ce que l'on avait avant. Donc ça peut être un outil vraiment intéressant. Très souvent, en fait, pour faire juste une petite parenthèse sur la réalité virtuelle, le côté un peu technique, faut comprendre qu'il y a un peu trois types d'environnement. Il y a l'environnement donc sur la base de vidéo 360 dans lequel donc on va pouvoir assister à un film. Il y a un deuxième type d'environnement où on va créer de toutes pièces ces environnements avec un intérêt, c'est que du coup on va pouvoir manipuler carrément des objets. On va pouvoir prendre une clé de 12 et puis tourner un boulon. Alors on n'aura pas encore le retour de force quand même, mais on aura des choses quand même très concrètes. Et puis la solution Nixie, elle est un peu entre deux. C'est sur la base de photos 360. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir créer les parcours très très rapidement, puisqu'on peut prendre des photos le matin et avoir un parcours disponible l'après-midi. Donc c'est extrêmement pratique, entre autres pour faire du suivi de travaux ou pour mettre en situation les personnes, pour faire des ateliers aussi. J'ai fait des ateliers avec des jeunes autistes par exemple, oui. C'était fabuleux quoi. On a pris les photos ensemble, ils ont appris à utiliser la caméra, et puis l'après-midi on était avec le casque pour se regarder avec des éclats de rire pas possibles, parce que voilà, ils se voyaient et c'était formidable.
Vous avez créé des contacts.
Donc,
comme ça.
Oui, ça a été vraiment extraordinaire. Et puis donc, pardon, juste pour finir sur ce point, l'intérêt aussi, c'est qu'avec la photo, on va pouvoir créer des points de transition, des points d'interrogation, des bruitages. Donc ça va permettre aussi de questionner l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il n'est pas en stand-by, il n'attend pas, il n'est pas simplement spectateur, il est acteur de son parcours virtuel. Donc il va vraiment répondre à une question, choisir s'il va à gauche, s'il va à droite, est-ce qu'il écoute une personne ou il n'a pas envie de lui parler, il part ailleurs. Voilà, donc on va pouvoir vraiment créer toute une histoire dans ce parcours.
La question que je voulais vous poser pour les autistes, ça ne pose pas de difficulté de leur mettre le casque ?
Alors, quand j'ai envisagé le sujet, ça m'a été souvent dit, oui, tout à fait. Entre autres parce qu'on dit voilà que les personnes autistes n'aiment pas le contact. Mm-hmm. Alors déjà de base, ils sont assez nombreux à avoir un casque sur les oreilles pour se couper du bruit ambiant. D'accord. Quand ils sont dans des ambiances sonores trop fortes. Donc le fait d'avoir quelque chose entre autres sur les oreilles n'est pas forcément un problème. Après l'autisme, il y a énormément de personnes différentes. Chaque personne autiste autistes est différente. Il y a les autistes Asperger, il y a des autistes lourds. Enfin, voilà, il faut pas essayer de les catégoriser. Je pense, ils sont tous différents, comme nous sommes tous différents d'ailleurs. Quand on regarde certaines vidéos, on a chacun nos compétences. Si on demande à certaines personnes de faire un ragoût, je pense qu'on aura un résultat pas très bon. Si on demande à une personne autiste de serrer dans ses bras les 1000 personnes qu'il a face à lui, effectivement, il y a de grandes chances que ça se passe pas très bien. Voilà. Mm-hmm. Mais chacun ses compétences et puis voilà. Mais ça a été, les ateliers pour créer ces parcours virtuels sur l'autisme ont été très très forts.
Très enrichissants, j'imagine. Ouais. Donc vous produisez des casques.
Alors je produis pas les casques. Les casques réalité virtuelle, c'est vraiment les casques du marché.
Ah, d'accord.
Mais nous on a créé la solution qui s'installe sur un casque. Un casque, faut imaginer, c'est un téléphone portable.
Oui.
C'est vraiment. D'ailleurs, à la base, c'était des téléphones portables. Donc on installe des applications où on les enlève exactement comme on le fait sur son téléphone portable. Il n'y a aucune différence. Voilà. Et donc nous, on a créé la solution Nixi qui s'installe sur le casque. Et puis derrière, soit les utilisateurs créent eux-mêmes leur propre parcours, puisque la solution est très simple. J'ai des collégiens qui l'utilisent pour créer des parcours, donc c'est pas compliqué à faire. Soit on crée des parcours pour les entités qui le souhaitent.
Alors votre actualité, vous annoncer la formation d'une journée sur les éco-gestes.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On propose cette journée de formation sur les éco-gestes, avec en particulier, on a plusieurs heures de prévues sous forme d'ateliers pour que les personnes non seulement elles vont apprendre, elles vont comprendre ce que sont les éco-gestes, mais également concrètement quoi faire dans leur entreprise, quelles sont les actions qui peuvent être menées. Donc on commence par vraiment de façon très spontanée proposer des idées. Donc les personnes disent tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, allez hop, en avant, on marque tout ça sur un tableau. Mais ensuite très concrètement, on va faire en fonction du nombre de personnes, on va faire des petits groupes et chacun va travailler sur un sujet bien précis. Donc ça va les amener à réfléchir déjà, est-ce que concrètement c'est faisable, est-ce que ça apporte réellement quelque chose, parce que par exemple on me propose des fois, il faut donc bien penser à éteindre la lumière. Alors du coup, on a fait le calcul. Concrètement, une grande salle avec 18 spots, allumée H24, 7 jours sur 7, quel est l'impact carbone?
Oui.
Bon, il faut 13 années de lumière allumée pour faire l'équivalent d'un aller-retour à Berlin en avion. Alors, un aller-retour en avion à Berlin, c'est très impactant. De là, avoir une grande salle allumée pendant 13 années,
D'accord.
Ça arrive rarement. Donc c'est pas qu'il faut pas éteindre la lumière en sortant, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pas le sujet, perdez pas votre énergie sur ce genre d'action. Voilà.
D'accord.
C'est plus impactant de voir si vous pouvez pas diminuer un petit peu vos allers-retours en avion, si au lieu d'en faire 3, vous pouvez en faire que 2, voire un seul, si vos trajets en voiture aussi, si au lieu de faire 2000 km, vous pouvez en faire 1800, c'est déjà ça de mieux, etc., etc. C'est vraiment essayer d'identifier,
qu'est-ce qui est concret. C'est plus la mobilité qui impacte.
Alors il y a la mobilité, il y a le chauffage, le bâtiment, ça a été évoqué par Saïd tout à l'heure, c'est un grand sujet, le bâtiment, l'isolation, c'est pour ça qu'il y a aussi autant d'actions actuellement qui sont proposées. C'est des points. Et puis les achats, je ne sais pas si certains connaissent le principe des achats responsables, on pourrait parler aussi des achats irresponsables. Il faut être conscient qu'à chaque fois que vous faites un achat,
Ça serait bien de se poser la question.
Voilà.
Est-ce que c'est le bon achat?
Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'achète au bon endroit? Déjà, le temps de vous poser ces questions, peut-être que l'achat irresponsable et l'envie brutale
va passer.
Donc, je sais bien qu'on est dans une société de consommation. Je suis chef d'entreprise. Je vais pas dire n'achetez pas. Donc, c'est difficile.
Mais il faut acheter responsable.
Il faut être conscient. Et entre autres, ça veut dire que les fournisseurs des entreprises, c'est un sujet crucial.
Ils doivent avoir la même démarche.
On doit se poser la question, vers quel fournisseur je me tourne? Est-ce que un fournisseur qui indique que ses casques sont obsolètes, on en parlait juste avant, en janvier pour le mois de février, et qui donc la conséquence c'est que donc des gens ont acheté en décembre et en janvier des casques qui sont déclarés obsolètes en février, c'est absolument impossible d'accepter ce genre de choses. Ouais, ben moi, je n'achète plus de casque chez lui. Voilà, c'est fini.
Ouais, très bien. Merci infiniment, Alain. Je crois qu'on pourrait continuer comme ça longtemps, mais merci infiniment pour cette approche innovante et puis votre capacité à démontrer que la réalité virtuelle peut transformer la manière dont nous sensibilisons et nous formons. Merci infiniment à vous.
Merci beaucoup, Jacqueline.
On fait une nouvelle pause avant de donner la parole plus longuement à Charles. À tout de suite.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, puis moi. Le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore la voie, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Ton prénom me blesse. Quand il se cache juste là dans l'espace, c'est quelle émotion, la haine ou la douceur. Quand j'entends ton prénom, je t'avais dit, ne regarde pas en arrière, le passé qui te suit.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio, avec toujours à mes côtés pour cette dernière ligne droite, Saïd Ferry, vice-président du MEDEF 95 en charge des transitions, membre associé de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, du Val-d'Oise, Alain Joland, fondateur de la société Altusform et créateur de la solution en réalité virtuelle Nixi, et Charles Henquin, producteur, réalisateur, fondateur et dirigeant de l'agence de communication audiovisuel Belinda Media et de la société de production théâtrale Je me voyais déjà. Charles, à vous d'entrer en scène.
Eh ben allons-y.
Je l'ai bien préparé.
Avec plaisir.
Celle-là.
Bien joué.
Alors, Charles, vous avez un parcours académique plutôt littéraire, Hippocagne, Cagnes, une licence d'histoire, ensuite un bac plus 5 avec une école de production
une école de production audiovisuelle.
Avec une idée donc déjà bien arrêtée dans ce domaine.
Oui, j'ai toujours été passionné d'images, de vidéos, de scénarios, d'écriture. Donc c'est assez naturellement que après ma licence d'histoire, je me suis orienté vers la production audiovisuelle. Je faisais déjà un peu de contenu vidéo de mon côté, tout à fait amateur, et c'est devenu mon métier passionnant.
Oui, puisque aujourd'hui votre parcours est jalonné de belles réussites.
Oui, bon, je suis assez fier. Ouais,
oui. J'ai expliquez-nous.
Belinda Media est née en 2016 et ça fait bientôt 10 ans qu'on est présent vraiment et qu'on produit de très beaux contenus publicitaires, également de vidéos d'entreprise. Voilà, donc avec mon associé Sébastien Renardet, on peut être assez fier de ce parcours et de tout ce qu'on a pu produire jusqu'ici.
Et donc vous m'avez expliqué, parce que on a eu un petit entretien téléphonique avant que vous veniez, vous m'avez expliqué que vous êtes retrouvé producteur de pièces de théâtre un petit peu par hasard.
C'est concours de circonstances. Il se trouve que je vous ai parlé de l'auteur tout à l'heure. J'ai oublié de citer son nom. Il s'appelle Patrick Menet. Ce nom vous dit certainement quelque chose. Patrick Menet, qui est également un ami et avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup, notamment sur des contenus publicitaires, puisqu'il a une plume excellente et beaucoup de créativité également. Et un jour il m'appelle, il me dit j'ai écrit une pièce. Je veux te la faire lire. Je l'ai lu d'une traite. Je me suis dit, elle est formidable cette pièce.
Ah oui, vous avez été emballé.
Il faut. Alors, on s'est dit, montons-la, produisons-la.
C'était
il y a 2 ans déjà.
2 ans.
Mais il y a des ponts. Moi qui suis producteur dans la vidéo, bien entendu que je partais pas de rien et qu'il y a beaucoup de similitudes entre toute forme de production, qu'elle soit vidéo, même radio. Cinéma, il y a quand même des similitudes, mais quand même le théâtre c'est un monde à part que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et que j'apprends d'ailleurs encore
à découvrir.
Là j'apprends tout en faisant. Hein.
C'est efficace.
On s'est dit lançons-nous et il a bien fallu 2 ans pour qu'on réunisse un peu toutes les pièces du puzzle et qu'on aligne toutes les planètes parce que la difficulté dans le théâtre, c'est de trouver le bon metteur en scène, la bonne salle.
Oui.
C'est-à-dire que souvent les deux sont corrélés, et le casting aussi. Donc les trois sont corrélés, parce que si on a un bon casting, on peut avoir telle
vous
salle.
Êtes tout de suite référencé.
Et le metteur en scène souvent également, et ça a été le cas pour nous, a fait le lien. C'est vraiment le metteur en scène Olivier Massé, que je salue au passage, qui est vraiment talentueux. C'est un metteur en scène prolifique qui en 20 ans de carrière a dû mettre en scène à peu près 90 pièces de théâtre, donc il est très prolifique et il est très hyperactif, et je suis très fier que ce soit notre metteur en scène, et c'est lui qui a un peu rassemblé toutes les pièces qu'on n'avait pas vraiment en notre possession pendant quasiment un an et demi.
C'est ça, oui, c'est lui qui a su faire le lien entre toutes les activités possibles.
Voilà, et parce que contrairement à nous, il avait une expérience, il avait un réseau, il connaissait les comédiens qui nous a présentés. Pour la plupart, les comédiens qui sont à l'affiche, pour la plupart, c'est lui qui nous les a présentés et qui nous les a conseillés. Et pareil pour la salle, il a réussi à faire le lien avec tout ça pour vraiment mettre en route la pièce.
Oui, en route toute cette synergie.
Exactement.
Alors vous nous l'avez dit, vous faites des films publicitaires, vous écrivez des montages audiovisuels. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau avec le théâtre ?
Alors, de nouveau, le théâtre c'est du spectacle vivant. Donc tout repose sur l'humain et sur des aléas qu'on n'a pas forcément, qu'on retrouve pas dans quelque chose de très écrit, préparé, comme une vidéo ou une publicité par exemple. Une publicité qu'on va faire pour la télé, on a un script, tout va très vite, il y a un tournage, on peut faire les prises 50 fois.
Il y a un process que vous suivez.
Il y a un process qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide, alors que le théâtre c'est je pense un peu plus comme un projet au long cours, comme au cinéma, où vraiment on va travailler dans la longueur. Et puis bien sûr, tout repose sur l'humain. Donc on a des comédiens qu'il faut fédérer. Il faut fédérer une troupe et aussi
garder l'enthousiasme constamment.
Ouais, exactement. Et aussi, contrairement à tout ce qui est contenu télé que j'ai eu l'habitude de faire pendant 10 ans, la différence aussi, c'est que notre client, on est on est son propre client au début, oui, avant même d'avoir des spectateurs. On doit vraiment œuvrer pour monter la pièce. On n'a pas vraiment de client à qui plaire au début. Donc on part vraiment d'une page vide. Dans le théâtre, on va devoir aller chercher le spectateur. Mmh. C'est une démarche active du spectateur. C'est ça, oui, il n'est pas dans son canapé, il allume pas sa télé, il a pas des contenus et des histoires qui lui tombent tout cuit dans le bec ou dans les yeux, plus exactement. Et donc, le théâtre, il y aura tout ce travail de marketing, de mise en valeur. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui,
bien sûr.
Pour faire valoir l'œuvre. Voilà. Donc, parce qu'en télé, il y a des bandes annonces, les gens ils savent que
de l'événement qui fait que ça donne. Mais alors justement votre production de films publicitaires, est-ce que vous êtes en capacité de faire un film sur votre pièce de théâtre pour l'annoncer?
C'est déjà un peu fait.
Vous imaginez
bien que je me suis servi mon savoir-faire de vidéaste et de réalisateur pour créer des contenus pour promouvoir la pièce.
Bien sûr.
Donc, c'est des contenus sur les réseaux, qu'on poste sur les réseaux. On fait des campagnes aussi ciblées, dans Paris, payante, bien entendu. Savoir-faire audio-visuel, donc c'est aussi audio. J'ai créé les maquettes là, parce qu'on va faire des pubs sur une de vos radios concurrentes, étant donné que
on peut le dire.
On a un super partenaire qui est RTL, et donc on va avoir des jolis spots radio.
C'est IDFM qui est partenaire de RTL
bien sûr, ça a été entre guillemets pour moi la partie la plus facile de créer des contenus vidéo pour la pièce. Mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, parce que je vous assure il y a quand même beaucoup de travail en amont. On peut en parler des heures, mais vous me demandiez la différence entre mon métier de producteur audiovisuel et de théâtre. Il y a des métiers que j'ai découverts. Tout ce qui est technique, la régie, le metteur en scène, moi qui suis réalisateur, ça c'est pas vraiment un métier que j'ai découvert, mais par exemple l'attaché de presse, la personne qui va être chargée du plan média. Là en l'occurrence c'est Patricia Marty qui est une référence avec sa société Cité Média et qui est chargée d'aller chercher, c'est d'ailleurs elle qui nous a trouvé les partenaires, elle va nous faire un plan média pour pouvoir avoir de la visibilité, sur les sites de billetterie, différents imprimés spécialisés dans le théâtre, etc. Il y a aussi toute la partie alors j'aime pas parler de ça, mais de remplissage, c'est-à-dire une personne qui va aussi faire en sorte que la salle soit toujours remplie. Elle va faire, elle bosse beaucoup en lien avec Patricia Marty parce qu'elle va proposer des places pour des CE.
Il faut vous adresser au MEDEF, pour remplir avec le MEDEF.
Le MEDEF c'est le premier réseau d'entreprises en France.
Alors
Je confirme que pour réussir dans ces projets entrepreneuriaux et pour pouvoir faire du chiffre, il faut travailler en réseau. Donc c'est incontournable aujourd'hui.
C'est pour ça que
nous avons un nombre important d'adhérents qui sont fidèles au MEDEF et d'année en année qui sont toujours chez nous parce qu'on leur apporte un service à la carte aussi.
Merci Saïd. Alors, on va parler du casting. Vous avez une très belle affiche qui a dû évoluer à quelques semaines de la première. Vous dites vive le spectacle vivant et ses aléas.
C'est le baptême du feu pour une première production. Je pense qu'on a eu tous les déboires qu'on pouvait même pas imaginer avant de se lancer. Mais bon, c'est comme ça. On le prend avec philosophie et voilà. Peut-être je peux si vous me permettez, vous pitcher la pièce.
Allez-y.
Voilà, parler un peu de l'histoire.
Oui, allez-y.
Donc, la pièce qui s'appelle En attendant Albert, peut-être c'est bien de la pitcher déjà en présentant Albert, que tout le monde attend.
Qui est Albert?
Donc, Albert, c'est un publicitaire reconnu qui a fait une très belle carrière, mais qui a une vie privée un petit peu mouvementée. et qui va retrouver sa femme, sa maîtresse, ses enfants, et tout ça va donner lieu à pas mal de rebondissements. Voilà, c'est une comédie.
Oui. Entre, c'est un vaudeville.
Vaudeville, boulevard. Inclassable pour moi parce que c'est à la frontière entre le boulevard et la comédie contemporaine.
D'accord.
Le boulevard, on rigole toutes les 15 secondes. Là, je vous proposerai aussi un peu de réfléchir avec ma pièce. Il y a des réflexions. C'est on va dire un sujet actuel qui représente un peu les conflits de génération entre les seniors, les jeunes. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance. Et je pense que tout le monde, que les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les très vieux vont s'y retrouver.
D'accord.
Voilà, et ça va parler vraiment à tout le monde.
À tout le monde. Bon.
C'est une pièce un peu intergénérationnelle. Et alors, la petite originalité de la pièce, sans vraiment spoiler, c'est que tous les personnages de la pièce sont morts.
Ah,
donc voilà, oui, j'aurais peut-être dû le préciser au début. J'ai jeté un froid dans le studio, mais voilà. Bon, c'est une pièce qui traite aussi de ce sujet-là, de la mort, d'un sujet
mémoire,
très grave.
Alors
oui, de la mémoire et aussi de quand on est mort, on connaît pas la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe?
Ah,
la société évolue sans nous.
Ouais.
Voilà, donc c'est toute une réflexion.
Une fiction, donc.
Oui, voilà. Bah bien sûr, c'est une fiction. Et voilà. Donc c'est un sujet grave, mais qui est traité avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, et c'est ça qui fait l'originalité de la pièce. Voilà.
Bon, ça nous donne envie d'aller la voir. Hein. Je sais
courant.
Pas si vous...
voilà. D'ailleurs, je précise, au début, l'auteur Patrick Menet avait appelé sa pièce Au fond du trou.
Ah oui. D'accord.
Voilà. Mais voilà, là, on a fait un peu de marketing.
C'est pas dans
la
boîte, mais c'est.
On s'est dit bon, est-ce que on changerait pas le titre pour quelque chose d'un peu plus lisse, voilà, pour essayer de donner envie au plus grand nombre de venir la voir.
Je viendrai voir la pièce.
Ah oui, on va aller la voir.
Je serai ravi de vous accueillir.
Alors, vous avez décidé, Charles, d'offrir des places hein, dans les prochains jours. Donc, il faudra que nos auditeurs et nos auditrices restent bien à l'écoute hein, pour avoir l'occasion unique de découvrir cette œuvre déjantée et passer un moment inoubliable.
Tout à fait. C'est
merci.
Avec plaisir qu'on offrira quelques dizaines de places
c'est ça,
à vos
donc
auditeurs. Et je précise que donc ce sont des auditeurs de toute l'Île-de-France,
oui.
Que le théâtre dans lequel nous jouons est dans le 9e arrondissement.
Oui, alors voilà,
alors,
la scène
s'appelle
parisienne.
La scène parisienne.
Oui.
C'est une jolie salle de 300 places, juste à côté des Folies Bergères.
D'accord.
Et voilà, on pourrait croire que voilà, Paris, c'est la galère, Hidalgo, tout ça, on n'arrive pas à se garer. Ça, il faut pas le dire. Mais en fait non, on est à quelques minutes à pied de la gare Saint-Lazare,
c'est ça, ouais.
À quelques minutes à pied de la gare du Nord, donc c'est tout à fait accessible là de Enghien-les-Bains où nous sommes actuellement, on y est en 20 minutes au théâtre, voilà.
À quelle heure le spectacle?
Alors, nous jouerons les jeudis à 19h30,
oui.
Les vendredis à 21h15 et les samedis, dimanche, je vais vous donner un terme que je connaissais pas avant, en matinée,
oui.
À 16h30.
D'accord, très bien, oui,
voilà,
comme ça se fait souvent
voilà,
le dimanche.
On appelle ça en matinée.
Oui, oui, très bien.
Puisque les comédiens se lèvent tard.
Alors, donc, nous, dès lundi, hein, on vous donnera tous les détails sur la manière dont vous pourrez mm-hmm. participer pour gagner ces places. Charles, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée?
Non, effectivement, bah, vous me l'aviez posée, mais j'ai pitché avant, mais on peut parler effectivement du casting.
Oui, oui.
Et voilà, alors, il y a des affiches en ce moment dans le métro avec un casting complet de 5 personnages. Dont Marie-Vincent. Marie-Vincent,
oui.
Celle qui joue le rôle de Janine, c'est un peu le personnage principal, c'est celle qui va un peu fédérer tous les autres personnages dans la pièce. Je vous en dis pas plus. Bon, malheureusement, voilà, à quelques semaines, on a dû, pour des raisons humaines, voilà,
ouais.
Complètement contre notre gré et contre le gré de l'artiste également, elle a dû passer son flambeau à une autre comédienne mm-hmm. qu'on a dû trouver en urgence. Je remercie au passage le super travail de notre metteur en scène, on en parlait tout à l'heure, et
ouais.
D'ailleurs aussi d'un des membres du casting, Pierre Denis. Voilà, donc Marie-Vincent sera remplacée par Marie-Bénédicte Roy, qui est également une très très bonne comédienne, qui est moliérisée, qui a eu récemment un prix au Festival d'Avignon. C'est une très très bonne comédienne et on est très très heureux de l'accueillir dans la troupe. Et donc à elle le challenge d'apprendre un texte et une mise en scène en 3 semaines.
Bon, ben on va lui faire des journées de formation en réalité virtuelle pour qu'elle apprenne son texte. Peut-être. Ben,
pourquoi pas, c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Ça pourrait être une solution.
Mais on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que, d'ailleurs, ouais. C'est Marie-Vincent qui me le disait. En fait, pour apprendre un texte, il faut le répéter, le répéter,
encore,
le répéter.
Encore.
Et même le week-end, enfin, tout le temps, en fait.
Oui, c'est ça, oui.
Il faut, parce qu'il y a des automatismes.
C'est une seconde nature, ouais.
Et je discutais avec Marie-Bénédicte, justement, parce que je faisais part de mon stress quant à l'apprentissage de son texte, parce que moi c'est quelque chose qui m'impressionne vraiment, la capacité que les comédiens ont à ingurgiter comme ça, parce que c'est quand même des rôles, des répliques qui se font très ping-pong, voilà. Et Marie-Bénédicte me dit mais non, moi j'ai la mémoire visuelle, c'est-à-dire que j'ai le texte et je sais en fonction des sauts de ligne retenir le texte.
Il y a des moyens mnémotechniques,
et donc effectivement avec le casque de réalité virtuelle, bon là c'est peut-être un peu trop tard, mais pour les prochains projets, je ferai
vous
appel à vous
penser.
Alors.
Merci infiniment Charles, producteur, réalisateur, pour ce partage passionnant et puis votre engagement à promouvoir un théâtre audacieux. Donc on rappelle on vous souhaite un immense succès pour En attendant Albert sur les planches de la scène parisienne, donc dans le 9e à partir du 6 février. On va rester en contact puisque
avec plaisir.
Vous allez nous offrir ces places. Donc merci infiniment. Voilà, c'est la fin de l'économie en direct, mais on ne se quitte pas puisqu'il y a une tradition à l'économie en direct où on donne un mot de conclusion. Donc j'ai commencé avec vous Alain Jolland, peut-être pour ce mot de conclusion.
Eh ben, de la même manière qu'il faut penser à tester son trajet en transport en commun ou en voiture pour comparer, n'hésitez pas à tester la réalité virtuelle. C'est le seul moyen de se rendre compte à quel point c'est immersif et à quel point c'est efficace.
Très bien, merci infiniment. Charles, un mot de conclusion.
Alors, c'est pas de la réalité virtuelle, c'est encore mieux. C'est du spectacle vivant. Non, je plaisante. Alain.
C'est vrai.
Mais voilà, j'aurai plaisir à vous retrouver à la scène parisienne à partir du 6 février pour cette très très jolie comédie décapante, mise en scène par Olivier Massé et écrite par Patrick Menet, qui s'appelle En attendant Albert.
Voilà, ben on vous souhaite, je renouvelle mon vœu de vous souhaiter un immense succès pour cette pièce. Donc le 6 février, c'est à quelle heure ?
Alors le 6 février, c'est un jeudi, c'est donc à 19h30.
Très bien.
Donc après, merci. On peut aller dîner.
Voilà, oui, on peut y aller.
Voilà, il y a toujours ce petit moment sympa à la sortie du cinéma ou du théâtre où on se dit, allez, on va en parler, on va se dire ce qu'on en a pensé. Voilà, donc 19h30, c'est un horaire parfait.
Impeccable pour pouvoir dîner après à la scène parisienne dans le 9e, à côté des Folies Bergères. Merci infiniment Charles.
Merci.
Saïd Ferry, le mot de la fin est pour vous.
Eh bien écoutez, sur ce sujet incontournable de la transition énergétique, il faut plus l'accepter et le prendre comme une opportunité,
oui,
plutôt qu'une contrainte réglementaire. Et que l'adopter, c'est être aussi en avant-phase et être avec son temps dans l'entreprise, mais aussi en tant que collaborateur ou salarié dans l'entreprise, pouvoir participer à ce mouvement de transition énergétique. Et puis aussi, je voulais dire que au MEDEF Val-d'Oise, c'est un sujet prégnant, c'est un sujet transversal, et que l'on va continuer à travailler là-dessus et à apporter certaines initiatives, donc restez à l'écoute.
Je crois que vous vouliez aussi nous dire un mot sur la rénovation énergétique.
Effectivement, la rénovation énergétique du bâtiment, c'est aussi un sujet qui nous concerne tous. Et aujourd'hui, l'État travaille sur cette question. Nous, on considère au MEDEF aussi que c'est un marché aidé. Et ça concerne aussi beaucoup d'entreprises dans le secteur du bâtiment, avec des configurations complètement différentes. Ça peut être une PME, ça peut être un artisan, ça peut être une TPE. Et là-dessus, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à construire ensemble et à soutenir aussi ces acteurs de la transition énergétique.
Merci, merci Saïd Ferry. Merci à tous les trois pour ces échanges enrichissants, inspirants. Chacun à votre manière, vous êtes des acteurs du changement et nous vous en remercions. Merci Francky pour la technique et merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Cette émission vous a plu, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le site idfm98.fr. Mardi prochain, un nouveau rendez-vous de l'économie en direct. D'ici là, belle journée et bon week-end.